la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, je vous conseille, je vous ordonne même d'aller au musée PAB, le musée Pierre-André Benoît, entre le 20 juin 2025 et le 4 janvier 2026, pour voir la magistrale exposition Alechensky sur papier. Et je viens d'écouter Carole Isa. Bonjour Carole.
Bonjour.
La conservatrice du musée PAB et pas que. Hein, vous êtes aussi conservatrice du musée du Colombier et de Maison Rouge. C'est ça. L'agglomération d'Alès. Donc vous nous avez présenté cette exposition et j'avoue que j'ai été étonnée par la couleur. Je ne connaissais pas Alechensky aussi coloré. Donc c'est surprenant ma réaction ou c'est assez commun d'attendre un Alechensky plutôt noir et blanc?
Peut-être on connaît plutôt ses gravures sur papier, les eaux-fortes. C'est peut-être ce qui circule le plus. Et puis, on a dans la tête toutes ces remarques marginales autour de ses œuvres. Mais c'est vrai qu'ici, au musée PAB, on a déjà la fresque qui... Alors, effectivement, elle est en bleu, noir et blanc, donc c'est pas très coloré. On a quelques œuvres de lui qui sont quand même assez colorées. Mais c'est vrai que si on aborde l'artiste par la gravure et... principalement par l'eau forte, parce que la lithographie a un petit peu plus de couleurs, il se peut qu'on ait une vision plus noir et blanc.
Donc un choc, cette exposition, d'abord par le nombre d'œuvres. Je vous laisse dire combien.
Alors environ 200. C'est vrai que c'est compliqué de dire le nombre parce qu'il y en a certaines, comme ce sont des livres, on les ouvre et on effeuillette le livre, on met des défaits, ce qu'on appelle des défaits. Et en fait, est-ce qu'on considère que c'est un livre, mais donc il y a 4, 5 ou 8 planche, ou est-ce que chaque planche devient une œuvre individuelle, mais elle n'est pas signée? Alors, voilà, donc on est à peu près à 200.
Beaucoup.
Voilà, beaucoup.
Beaucoup.
Tout à fait.
Et j'ai apprécié votre anecdote disant comment s'est faite cette exposition, et vous avez dit « Je ne suis pas commissaire de l'exposition, c'est Alechensky lui-même qui est commissaire de sa propre exposition ».
Oui.
À 97 ans, c'est magnifique.
Oui, c'est vrai. Il est, en fait, c'est une carte blanche que nous lui avons donnée. Comme souvent dans les musées, c'est lui qui projette et qui choisit ce qu'il veut présenter. Et en fonction du lieu, en fonction d'une rencontre, hein, tout ça, ça vient évidemment d'une rencontre. Et c'est vrai que chez PAB, c'était l'univers du papier. Et donc, le dessin, la gravure, la peinture sur papier, les livres, mais toujours le papier. Et donc, c'est ça qui a dicté les choix qu'il a fait. Le papier, depuis les années 1948-1950 jusqu'à 2022-2023, les dernières œuvres qui nous sont présentées dans l'exposition.
Alors, une histoire d'amitié entre PAB et lui. 25 ans d'amitié. Hein. Et je trouve que ça se ressent, puisque vous avez dit qu'il a tout décidé. Il y a une grande densité. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire cette exposition en une fois. Je trouve que il y a tellement de choses qu'il faut voir tellement de détails. Il a pris plaisir à cette exposition qui n'était pas la première au PAB, d'ailleurs.
Non, c'est la troisième fois que Pierre Alechensky s'installe, prend ses quartiers d'été pour cette fois-ci. il avait été invité donc par PAB lui-même en 1990, donc l'année après l'ouverture du musée. C'était la troisième ou quatrième exposition de mémoire du musée. Il est revenu en 2001. Et donc, cette fois-ci, en 2025, donc c'est la troisième fois. Après, c'est la troisième fois en 25 ans. Donc, c'est pas... Mais tout de même, nous exposons généralement dans une salle que l'on consacre à Pierre Alechensky des œuvres qu'il a réalisées. Et de toute façon, nous avons toujours en place la fresque sur l'Ave Maillé qui accueille les visiteurs et le vitrail qui est dans une des salles du musée. Donc de toute façon, quel que soit l'accrochage, Pierre Alechensky nous accompagne tous les jours.
Alors à 97 ans, on a dit, très présent, et j'ai remarqué surtout des inédits, c'est-à-dire des œuvres qu'il n'a jamais montrées. Vous êtes allé dans son atelier à Bougival?
Oui, j'ai eu la chance d'y aller deux fois.
Et ça doit être... un amoncellement, non.
Pas du tout, pas c'est du extrêmement tout. Bien rangé. Il y a beaucoup d'œuvres sur dans des rails, rangées dans des étagères. Il y a une sorte de mezzanine sur la moitié de la pièce, et donc il y en a au-dessus et en dessous. Donc il y a effectivement des centaines d'œuvres, mais toutes bien rangées, alignées, les unes... En fait, je crois que dans un atelier, si vous commencez à laisser le bazar s'installer, vous êtes débordé et vous ne pouvez plus rien ranger.
Ouais. Et puis donc, là, il a un assistant qui veille à
voilà,
tout
il est,
cela.
Il est assisté Frédéric Charron, qui travaille avec lui depuis 1989, de mémoire, et qui donc connaît parfaitement son œuvre et l'aide à organiser. Mais non, son atelier est très organisé. Ah, il y a un grand plan de travail au centre. Et quand je suis allée le voir au mois de janvier 2024 pour parler de l'exposition, il avait préparé quelques livres, mais voilà, on a pu les ouvrir, les déplier, il y avait de la place. Et c'est très blanc, très lumineux, il y a des chaises pour s'asseoir. Non, c'est pas du tout...
Ça casse le cliché de...
Complètement, c'est un
de
très bel atelier.
De l'artiste bohème, bordélique, pas du tout.
Moi, les artistes, j'ai vu... plusieurs ateliers d'artistes et j'ai jamais eu l'impression de rentrer dans un espace où on ne savait pas où s'asseoir. Je veux dire, les artistes rangent quand même. Alors après, quand ils sont en pleine période de création et qu'ils font des séries et qu'il y en a plusieurs, il peut y avoir
un peu de désordre.
Un peu de désordre.
De création, en fait.
Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller dans l'atelier de Claude Viala, j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs ateliers et à chaque fois, on peut circuler. On a de la place soit au sol ou soit sur les murs pour déplier ou accrocher les toiles pour quand même avoir un peu de recul et pouvoir faire des choix scénographiques pour la présentation de l'exposition.
Donc c'est une belle rencontre avec Alijinsky, je pense.
Oui,
c'est marquant tout de même dans votre vie personnelle, dans votre professionnel, dans votre carrière, et ça a l'air d'être un homme joyeux, je ne sais pas, mais j'ai cette impression que j'ai sorti de ses œuvres. J'ai été très marquée par la dernière salle où les sons sont très pastels, alors qu'en fait tout au long, on a plutôt des peintures, des couleurs très, très violentes. Et on a toujours l'impression qu'il s'amuse, on a toujours l'impression qu'il joue. C'est qu'une impression ?
Non, c'est une réalité. Déjà, la dernière salle dont vous parlez, c'est des aquarelles. Donc avec la couleur, la technique a influence aussi. Évidemment, quand il travaille à l'encre noire, ce n'est pas le même rendu que quand il est sur de l'acrylique. Et là, en plus des aquarelles, donc il y a quelque chose qui joue sur les transparences et donc d'une légèreté, d'une fluidité qui effectivement peut vous donner cette sensation. Après, vous avez raison, c'est une très belle rencontre. Une rencontre où petit à petit on a discuté, les choses se sont faites et puis il y a eu plusieurs semaines sans échange et puis d'un coup on remettait et l'exposition a pris corps et Frédéric avec qui donc il travaille et avec qui j'étais beaucoup en relation a proposé rapidement l'accrochage, le plan d'accrochage. Il est venu l'année dernière au mois d'août pour bien revoir les salles, mesurer les murs, qu'on lui donne toutes les informations.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je reviens à ces inédits. Il y a tout de même des choses au PAB qu'on n'a jamais vues nulle part.
Oui, alors on a un quadriptyque, un ensemble de quatre peintures rectangulaires en hauteur qui datent de 2015 et qui, pour le coup, n'ont jamais été montrées. Après, dans cette même salle, il y a un ensemble de trois œuvres qui a été montrées une seule fois au Japon. Et puis, dans cette dernière salle, ces aquarelles que vous aimez tant ont été montrées uniquement aux États-Unis à Pittsburgh dans les années 70 et à Madrid dans les années 2000, au début des années 2020. Et
donc, puis, venez au PAB.
Voilà. Donc, il y a des inédits, il y a des choses, effectivement, c'est pas du déjà vu. Et en même temps, il y a deux ou trois exemples d'œuvres qui étaient déjà présentes dans l'une des deux expos, soit en 90, soit en 2001. Et ça aussi, c'est touchant. Enfin, quand on a déballé les œuvres et qu'on a vu les étiquettes de notre prêt qu'on avait demandé il y a quelques années, c'est touchant de se dire que les œuvres reviennent aussi. Et donc, à la fois, il y a une circulation et des échanges et des nouveautés. Et à la fois, il y a quelque chose comme ça qui revient parce que certaines œuvres, pour Pierre Alechinski, avaient du sens dans ce musée. Dont une qui s'appelle « Décrire et dépeindre ». Et qui, voilà, surtout le processus de la peinture, de l'écriture. Et c'est vrai que je pense que pour lui, voilà, musée-bibliothèque Pierre-André Benoît, cette question de l'écriture, tout de suite, ça a du sens.
Oui, parce que pour si des auditeurs ne connaissent pas encore, le musée Pierre-André Benoît, c'est les livres. Hein, c'est tout de même, les livres, c'est du papier. Et j'ai beaucoup apprécié, et en même temps, ça m'a un peu perturbée de voir chaque page de livre mise sous cadre. On n'a pas cette texture du livre, mais qu'on ne pourrait pas consulter, bien évidemment. Donc c'est un choix, je pense, par exemple, aux clous.
Oui, tête de clou.
Tête de clou. Et vous faites des choix, bien sûr, de présentation. C'est Alechinsky qui les a fait.
Là, c'est Pierre Alechinsky qui souhaitait le montrer justement complètement déplié, puisque d'habitude, il faut tourner les pages et on ne l'a jamais en entier. Moi-même, je ne l'avais jamais vu comme ça, déployé. Et j'avoue que c'est vraiment une surprise et je trouve ça très fort. Alors évidemment, ça reste pour moi un livre, on ne va pas se mentir, hein, c'est, la matérialité reste importante. Mais au-delà de l'objet bibliophilique qu'on possède dans sa bibliothèque, qu'on consulte rarement, là, le fait de l'avoir au mur et de voir cet enchaînement et cette variété avec le même motif, la même couleur, donc on est quand même sur quelque chose qui est très réduit, restreint, et pourtant avec une inventivité, avec un jaillissement.
Oui, vous avez parlé de danse, vous avez parlé de rythme, c'est vrai que page par page, on ne s'en serait pas rendu compte. Et puis je pense aussi la même chose sur l'illustration de Blaise Cendrars, la dernière salle.
Oui,
où
le Volturno, tout à fait.
C'est vrai que là... Moi, ça me laisse un peu perplexe. J'ai pas l'impression d'être devant un livre et en même temps, c'est magistral, quoi.
Cela étant dit, en plus, toutes les illustrations n'ont pas été gardées dans le livre. Donc là, quand on présente les illustrations, toutes ne sont pas dans le livre. Donc là, il y a des petites subtilités parce qu'il en a fait plus que ce qu'on lui a demandé. Mais c'est vrai que là, tout, avec ce petit bateau là qui s'éloigne avec la fumée, etc., sur cette mer avec ce soleil couchant, même si on est en noir et blanc. Il y a quelque chose quand même de très vibrant, hein, vous l'avez senti cet ensemble. Et on a l'impression d'une succession là, de vignettes, de bandes dessinées. Et qui, voilà, il y a une narration qui se fait et qui est très, très intéressante.
On reviendra sur cette notion de bande dessinée, de vignette. Vous nous avez bien expliqué. Et pour nos auditeurs, ça peut être intéressant d'avoir un peu des clés quand on vient. On regarde, bien évidemment, mais quelquefois, qu'on a quelques codes, ça permet tout de même d'avoir de façon différente. Et vous avez dit aussi, puisque vous l'avez côtoyé, qu'il écoutait beaucoup de jazz et de musique classique. Mais j'ai vu qu'il y a un ouvrage d'Eric Satie.
Oui.
Et donc, on va écouter Eric Satie. Je pense que ça s'impose. Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons la conservatrice Carole Isa pour présenter l'exposition donc Alechinsky sur papier, hein, qui se déroule du 20 juin au 4 janvier 2026. Et j'aimerais, Carole, que vous reveniez justement sur ces notions de vignettes, de prédelles, de palinceps, de bordures. Vous nous avez vraiment bien montré la différence et je pense que c'est intéressant que vous le disiez à nos auditeurs.
Oui, alors Pierre Alechinski, au milieu des années 60, lors d'un voyage à New York chez un ami, voilà, Sting, qui est peintre, hein, découvre à la fois la peinture à l'acrylique. Donc il va délaisser la peinture de chevalet à l'huile, qui n'est pas fluide, qui est un peu résistante, qui est un matériau en plus qui sèche difficilement sur la durée, pour adopter vraiment pleinement la fluidité, l'expressivité du geste. Et avec l'acrylique, il peut libérer vraiment sa gestuelle.
Il est gaucher.
Oui, il est gaucher. C'est un gaucher contrarié, donc on l'a forcé à écrire de la main droite, mais pour le dessin...
Et pas de la main gauche.
Voilà, le dessin, en gros, qui est une chose futile, vous le savez bien. On lui a laissé s'exprimer par la main gauche, mais évidemment, pour apprendre à écrire à l'école, il avait la main gauche attachée et il a fallu qu'il apprenne à écrire de la main droite. Donc, ce qui fait qu'il est ambidextre, il sait écrire des deux mains, il sait écrire en miroir, notamment. Ce qui est toujours très surprenant quand on le voit signer les œuvres, écrire d'un côté la numérotation et de l'autre signer...
Surtout faire deux choses en même temps, quoi.
Exactement.
Alors qu'on nous dit que normalement, notre cerveau...
Non, lui, le cerveau arrive à faire deux choses
en même temps. Mais c'est un avantage, peut-être.
Oui, ah oui,
dans la créativité.
Il le considère comme tel, bien sûr. Et donc,
Il découvre la peinture acrylique.
Voilà, et à ce moment-là, il va aussi peindre une toile qui s'appelle Central Park et qui va représenter sa vision, une sorte de grand serpent de mer, ce qu'il voit depuis les buildings, la hauteur des buildings au bord de Central Park. Et lorsqu'il rentre en France, il fait plein de sortes de vignettes sur papier qu'il va venir épingler autour de son œuvre. Et en fait, il va maroufler tout ça sur toile et ça va donc devenir des vignettes sur tout le pourtour, donc tout autour de l'œuvre qui est en couleur. Vous avez des vignettes plutôt en noir et blanc, gris et blanc en tous les cas, qui viennent raconter, compléter, permettre une relecture de l'œuvre centrale. Et comme ça, dans un dialogue permanent. Et cela fait référence, alors soit c'est sur tout le pourtour, soit c'est juste en bas sous forme de prédelle, un peu comme une astise, hein, comme un piédestal, un socle, comme dans la peinture flamande du Moyen-Âge où vous avez la vie des saints avec plein de petites vignettes en bas qui racontent les différentes... et puis en général, dans la partie centrale, le martyr ou un moment marquant de la vie du saint. Et donc ça, Pierre Alechinski revendique tout à fait cet héritage qu'il a inspiré. Et il va utiliser donc ces remarques marginales. Les remarques marginales, c'est un terme vraiment qui est connu dans le monde de la gravure, puisque c'est les remarques que les graveurs font sur tout le pourtour pour essayer. S'essayer. On avait, au cours de l'exposition Braque, exposé dans la Grande Galerie toute la théogonie d'Hésiode, et on avait la publication avec les remarques marginales de Georges Braque, ce qui est très rare. Et en fait, Pierre Alechinski va donc utiliser ce terme de remarque marginale pour exprimer ce qui donc vient faire le pourtour de ses œuvres. Et dans les années 80, il va inverser le processus et l'œuvre centrale va être en noir et blanc et ce sont les remarques qui vont être en couleur. Pas toujours, mais disons qu'il va aussi se permettre comme ça de faire un pas de côté et de renouveler la question de la place plutôt de la couleur et du noir et blanc.
Mais c'est pas contradictoire avec ce que vous disiez, qu'il n'avait jamais de projet, qu'il ne savait jamais ce qu'il allait faire avant. Non, puisqu'en fait, c'est des processus complémentaires, successifs, c'est ça en fait.
C'est ça. Il va créer comme ça ces sortes de vignettes et il ne sait pas encore dans quel ordre il va les installer. D'accord. Et comment ça va. C'est après, au fur et à mesure. Comme il a fait partie du groupe Cobra, il prône vraiment une grande liberté dans l'expression de l'imaginaire. Il n'y a pas de dessin préparatoire, il n'y a pas de projet prédéfini. Et en fait, il donne le nom de baptême de ses œuvres, il les titre après. A posteriori, toujours avec beaucoup d'humour. Très important le titre chez Pierre Alechinski, il ne laisse pas ça au hasard, c'est pas sans titre numéro 20, 22, 26.
Mais on peut
26.
Regarder aussi sans connaître le titre,
Exactement, mais c'est vrai que le titre des fois vient par boutade, on voit l'ironie, l'humour, ou alors il y a certaines fois, ça peut être plus descriptif, on a un qui s'appelle La Cantatrice, c'est une femme.
Je pensais justement à La Cantatrice que vous aimez beaucoup, parce que moi j'aurais dit Méduse, j'aurais
Exactement.
Pas du tout dit La Cantatrice.
Non, donc, c'est une cantatrice qui est donc chauve, comme l'est celle de Ionesco, mais en fait pas vraiment, parce qu'elle a des serpents sur la tête.
Et pourquoi vous l'aimez beaucoup, cette cantatrice? Par les couleurs?
Je trouve qu'elle est... Il y a quelque chose à la fois qui relève de la statuaire et de la femme figée. Et en même temps, il y a un grand dynamisme dans les couleurs et dans cette présence des serpents. Et puis, le fait de savoir que c'est une cantatrice représentée sous forme de méduse et une sorte de création mythologique, là, et de... bouillon de culture, de plein de choses qui se rencontrent. Et c'est vrai qu'à la fois, le format qui est assez imposant, les couleurs me plaisent.
Donc voilà, et puis après, il y a des coups de cœur.
Oui, on a des coups de cœur.
Il y a beaucoup d'émotions. Et moi, je ne sais pas si c'est de l'émotion, parce que j'ai beaucoup ri devant le point d'interrogation à l'encrier. Alors ça m'a vraiment fait beaucoup rire, parce que je trouve qu'il se moque de beaucoup de choses. Et en même temps, c'est très intense.
Oui, c'est jamais impertinent, mais ouais. c'est toujours juste.
Oui.
Et là, c'est vrai que ce point d'interrogation en encre noire qui sort de cet encrier, c'est un petit peu qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce que l'écrivain va nous dire, va nous écrire. Et un petit peu comme lui qui dit qu'il va sortir quelque chose de la toile, notamment quand il travaille sur les palimpsestes avec donc des papiers du 18e, 19e, des papiers d'archives qui sont un peu les oubliés de l'histoire et qu'il va réactiver en se servant des tâches de la topographie, quand c'est une carte géographique, etc., pour créer des personnages, pour créer des formes.
Oui, j'ai remarqué que dans les bordures, parfois, on a l'impression que c'est des feuilles de compte, on a l'impression de compte, c'est OMPTES,
oui, hein, qu'il a réutilisé. Ça l'est.
Ça l'est. Parce qu'il y a aussi les textes de Butor.
Il y a des tapuscrits de Butor, effectivement, donc c'est peut-être quelque chose qui est dactylographié. Souvent, c'est des manuscrits du 18e qui va chiner sur les puces. Et donc, il y a cet amour du vieux papier, parce que Pierre Alechinski est un amoureux du papier, il aime l'encre, le papier.
C'est ce qui a fait son amitié avec Pierre-André Benoît.
Oui, avec beaucoup d'autres éditeurs, comme Bruno Roy, Fata Morgana, comme les époux Dutroux. Il dit bien lui-même que c'est un peintre qui vient de l'imprimerie. Il est devenu peintre, mais de manière autodidacte. Son parcours, au départ, c'est la typographie à l'école de la Cambre à Bruxelles. Et c'est vraiment, effectivement, l'imprimerie qui est le point de départ. Et ensuite, il va cheminer, même en tant que peintre, toujours avec ce lien par rapport à l'impression, avec ce lien avec le papier qui est très fort.
C'est pour ça que c'est le titre de l'exposition.
C'est ça.
Alechinski sur papier.
Sur papier. Parce qu'en fait, c'est son médium de prédilection. Oui.
Alors, vous avez parlé de la Belgique et on a fait des allusions, bien évidemment, avec ces vignettes, avec... À la BD, on a l'impression que assez souvent ça se rapproche de la BD ou c'est pas une BD ?
Alors, il n'est pas contre cette interprétation. Par contre, il ne la favorise pas non plus. C'est-à-dire que comme...
Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de...
Non. Voilà. Non. Sauf dans une œuvre avec Christian Dautremont, un poète et ami. Sauf par exemple dans La Petite Falaise Illustrée devant notre musée, effectivement il y a des mots de Pab et puis il y a les œuvres de Pierre Alechinski, donc là on peut dire que dans le livre et dans certaines œuvres à quatre mains, il y a des mots qui viennent se mêler, même dans les palimpsestes, quand il récupère des archives du 18e siècle et qu'il va peindre dessus, il y a des mots, mais c'est pas ça le moteur au départ. Je crois que oui, Pierre Alechinski, vraiment il y a ce lien très très fort avec l'imprimerie et ce lien aussi aux personnes que vous venez de souligner, qui est quand même c'est un artiste d'une grande fidélité,
D'une amitié réelle, je veux dire. D'ailleurs, la fresque dont vous parlez à l'entrée, c'est un cadeau. En fait, vous dites souvent, en fait, ils communiquent par l'art. En fait, ils font un cadeau artistique.
Oui, en fait, c'est une œuvre qui a été créée par le musée. C'est pas une question de financement, mais c'est vrai que c'est pour l'anniversaire de Pape pour ses 70 ans en septembre 1991, où finalement elle est installée sur un poème de Pab et avec les laves émaillées qu'il fabrique. Et c'est vrai que ça, c'est le témoignage d'une amitié. Et ensuite, même une fois que Pab est décédé et n'est plus là, eh bien, Pierre Alechinski a le souvenir du travail fait en commun, de l'amitié, et donc d'exposer à Alès, ça lui semble naturel. Frédéric Charron, son assistant, nous disait, c'est pareil, on évoquait à l'instant Christian Dautremont. Ben voilà, il est décédé depuis bien longtemps déjà, mais dès qu'il peut mettre en valeur cet écrivain, il le fait avec plaisir dans cette exposition parce qu'il a le souci de travailler aussi au souvenir de ceux qui l'a côtoyé. C'est pas du tout un artiste solitaire dans l'atelier, individualiste, et qui est concentré uniquement sur
sa tour d'ivoire. Non, il est vraiment ouvert sur le monde.
Ah oui, et il ouvert sur l'imprimerie.
Il devait être très ému d'être ici tout de même, parce que 97 ans, bon, ça doit... Non, vous ne l'avez pas ressenti comme cela ?
Alors, émue, je ne sais pas, émue, parce qu'il expose dans le monde entier, il expose depuis fort longtemps, et que... mais content.
Content.
Content. Voilà, émue, je ne peux pas vous dire, il ne m'a pas exprimé cela dans ces termes-là, mais par contre, je l'ai vu motivé. Voilà, quand je suis allée le voir, eh bien, c'est vrai que même à 97 ans, tout de suite, il m'a sorti les livres, et en fait, il m'en parlait en me disant « oui, ça c'est important, puis ce livre-là est important, puis on pourrait mettre ça, on pourrait mettre ça ». Et en fait, au bout de 20 minutes à l'écouter, je me suis dit « mais en fait, dans sa tête, ça il y fait est. Déjà l'exposition. Je suis venue pour négocier une exposition, mais en fait, je n'ai pas besoin de la négocier. Il est en train de me montrer qu'on est en train de la préparer. Et voilà, je suis venue pour évoquer un projet, et en fait, je suis repartie en ayant finalisé le projet.
» C'est pas à chaque fois comme ça.
Non, c'est pas à chaque fois comme ça, et surtout avec des gens de la trempe
de cette envergure.
Cette notoriété, bien sûr. Donc c'était extraordinaire. Je suis sortie de là avec un sourire. C'est surtout moi qui étais émue.
Et pour compléter, il y a d'autres actions à la médiathèque, aux archives. C'est important, en fait. Alès vit à l'heure d'Alechensky.
Oui, cette année 2025 est une année placée sous le soleil d'Alechensky, à la fois donc au musée jusqu'au 4 janvier, mais aussi aux archives municipales jusqu'au 4 janvier aussi, avec un projet qui s'appelle Technicomment, une exposition qui aborde les questions techniques chez Pierre Alechensky. Donc justement, tout ce dont on parlait au départ, cette histoire de papier, les types de papier, les gens vont pouvoir voir les différents types de papier, les toucher. On ne touche pas dans un musée, mais là, voilà, mon collègue des archives va sortir des choses, les différents types de pinceaux, les différentes encres qu'il utilisait. Il va y avoir des films qui vont être projetés. Donc vraiment, c'est un excellent complément pour aller comprendre la technique de cet artiste. Et puis, à la médiathèque Alphonse Daudet, à MAD, un projet jusqu'au mois d'octobre de présentation de 20 affiches. Une vingtaine d'affiches dessinées et réalisées par Pierre Alechensky au fil de sa vie.
Mais trois bonnes raisons donc pour venir à Alès. Et puis tout autour, bien évidemment, comme à chaque fois, des ateliers, des animations. Donc aller sur le site.
On va avoir plusieurs choses durant l'été et l'automne, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les familles. Donc parents-enfants qui viennent en même temps travailler. Je pense que c'est un grand moment pour se retrouver autour de l'art, que ce soit la musique ou la peinture, parce que le parent n'est pas forcément plus sachant à ce moment-là que l'enfant, et il peut y avoir justement au niveau de la créativité des choses assez extraordinaires qui se passent. Donc ne pas hésiter à prendre notre livret d'exposition pour les personnes qui viennent visiter les expositions, ou à regarder bien sûr sur le site internet.
Mais merci beaucoup Carolisa, merci pour cette rencontre dont vous partagez l'émotion avec Pierre Alechensky. Merci à vous.
Merci.